Amis, nous sommes très heureux de nous retrouver cet après-midi dans le cadre de ce 65e pèlerinage à Notre-Dame de la Prière et le pèlerinage de l'année de la foi. C'est pas rien, Monseigneur nous a invités à plus de foi, je pense qu'il va encore le faire. On lui a demandé s'il pouvait nous dire quelques mots sur la foi de Marie heureuse, celle qui a cru. Merci Monseigneur pour ces quelques mots qui vous viendront dans le cœur.
Bon, vous m'entendez comme ça? Oui? Non. Je vous propose, alors je sais qu'on l'a déjà fait, mais qu'on se confie cette petite intervention encore à la Vierge Marie pour simplement que mes propos puissent être utiles, parce que c'est le nombre de discours qui ne servent à rien. Et donc que ça puisse être utile un tout petit peu, voilà. Pour vous. Alors je vous propose, on prend une seconde de silence. Chut. Vierge Marie, nous te confions nos cœurs, nos paroles, et accorde-nous de grandir dans l'attachement au Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Alors, je vais essayer de donc vous partager quelques éléments sur la foi. Donc, et je voudrais le faire à partir de deux choses. D'abord, comme ça? Ça va comme ça? Donc je voudrais le faire à partir de deux aspects, à partir donc de l'année de la foi. Vous savez que le Saint-Père a ouvert le 11 octobre dernier l'année de la foi. Mais il l'a fait, et c'est pas sans lien, il l'a fait volontairement alors que nous fêtions aussi ce même jour les 50 ans de l'ouverture du Concile. Et d'autre part, ça vous est peut-être passé moins, ça vous est moins aperçu, mais c'était aussi, et c'était volontaire, au moment où se déroulait à Rome le synode sur la nouvelle évangélisation. Alors tout ça se tient ensemble. J'en dirai un mot. D'autre part, j'aimerais aussi évoquer donc la question de la foi à partir ou à travers l'expérience, pour le peu qu'on puisse la mesurer, de la bienheureuse Vierge Marie, hein, dont Élisabeth, sa cousine, dira que heureuse, c'est le verset de référence, heureuse celle qui a cru. Son bonheur, c'est d'avoir cru. Donc, en fait, mon propos sera une invitation, je fais déjà la conclusion, à vous mettre à l'école de la Vierge Marie. Alors permettez-moi un mot d'abord sur l'année de la foi et donc le fait d'insister sur le lien qui est entre l'anniversaire du Concile et l'ouverture de l'année de la foi. Vous savez que Paul VI, le pape Paul VI, à la fin du Concile, avait lui-même, en 1968, ouvert une année de la foi, exactement de la même manière. Et puis la dynamique de ce qu'on appelle la nouvelle évangélisation. Vous savez, pourquoi il y a un lien? Simplement, l'intention du Concile Vatican II. Alors, moi je suis de la génération de ceux qui sont nés juste à la fin du Concile. C'est-à-dire, je n'ai pas connu l'avant-Concile. Donc, il y a des débats qui ne sont pas les miens. Je suis de la génération de ceux qui sont des purs produits de cette époque-là. Je vous en dirai un mot tout à l'heure. Et donc, quelle était l'intention quand Jean XXIII a ouvert le Concile? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il n'a pas voulu, le Concile ne voulait pas réorganiser l'Église, mais la renouveler en partant du Christ, en partant de Jésus. Et donc, en faisant en sorte que l'on comprenne mieux, que l'on découvre mieux le mystère du Christ, de qui est Jésus. Hein, c'est pour ça que, vous savez, la constitution, il y a une constitution du Concile qui est très connue, qui s'appelle, sur l'Église, elle s'appelle comment ? Bon. Hein ? Lumen, c'est le curé qui a répondu. Lumen Gentium, lumière des... En voulant parler de l'Église, le Concile commence par Lumen Gentium, lumière des nations. Mais la lumière des nations, c'est qui ? C'est quoi ? C'est pas l'Église, hein ? C'est pas l'Église la lumière des nations, c'est ? C'est pas vous non plus ! Pas tout de suite, en tout cas. C'est Jésus. Donc quand on a voulu parler de l'Église, on a parlé de Jésus. Et l'intention du Concile, retenez ça, c'est simplement de se recentrer, de mieux comprendre le mystère du Christ, pour mieux comprendre l'Église, pour avoir une dynamique de missionnaire plus grande. Alors je vous cite, au moins je vous l'ai fait une fois, un passage du Concile qui dit « Le Christ est la lumière des nations. Réunis dans l'Esprit Saint, le Saint Concile souhaite donc ardemment, en annonçant à toutes les créatures la bonne nouvelle de l'Évangile, à répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. » Jean-Paul II, je vous le dis parce que c'est pas toujours clair, Jean-Paul II avait cette expression, il dit que le Concile Vatican II, dont nous fêtons dans les 50 ans, est la boussole pour notre époque aujourd'hui. Et cela suppose une chose, je vais être un peu comme ça, caricatural. Cela suppose quand même une chose, c'est d'avoir une juste relation au Concile. Et dans son homélie du 11 octobre, justement au moment de l'ouverture de l'année de la foi, le pape Benoît XVI a réaffirme quelque chose de très important. Je me permets de vous le citer. Alors, afin que l'élan intérieur de la nouvelle évangélisation ne reste pas virtuel, c'est-à-dire pas simplement comme ça, une idée qui n'a pas de réalité, ni entachée de confusion, il faut qu'il s'appuie sur un fondement concret et précis, et ce fondement est constitué par le Concile Vatican II, dans lequel il a trouvé son expression. Pour cette raison, j'ai insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de revenir, pour ainsi dire, à la lettre du Concile, c'est-à-dire à ses textes, pour en découvrir l'esprit authentique. Et j'ai répété que le véritable héritage du Concile réside en eux. La référence au document protège, les excès ou d'une nostalgie anachronique ou de course en avant et permet d'en saisir la nouveauté dans la continuité. Alors en clair, ce que dit le pape, et après je m'arrêterai là-dessus, il dit que l'esprit du Concile, c'est-à-dire pour comprendre le Concile, l'esprit du Concile, c'est dans le texte du Concile. Pour le dire autrement, c'est une invitation à lire les textes. Alors, je sais bien que pour lire, c'est un effort. Mais moi, je vous invite à lire des passages entiers du Concile, à faire l'effort de les lire, d'essayer de comprendre ce qu'ils disent. Parce que je suis assez fatigué d'entendre des tas de gens qui me parlent du Concile pour ou contre. Hein ? Mais qui manifestement l'ont jamais lu et jamais travaillé, ça c'est clair. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais simplement l'intention du Concile c'était de revenir au Christ pour mieux comprendre ce qu'il était, mieux comprendre ce qu'est l'Église et mieux évangéliser. Ok ? Alors je vais dire un mot sur l'année de la foi dans laquelle nous sommes entrés. Vous me suivez toujours ? Donc là, nous venons d'entrer dans l'année de la foi. Et l'année de la foi, ça touche au moins deux dimensions. Mais je ne suis pas sûr que ce soit toujours très clair pour beaucoup ce qu'est la foi. J'entends encore des gens qui me disent « Ah père, j'ai perdu la foi ». Comme si on perdait la foi comme on perdait son portefeuille. Non, la foi, on peut la trahir, on peut la renier. on peut ne pas la nourrir. Du coup, elle s'éteint comme le feu. Vous savez, si vous mettez pas, vous n'alimentez pas le feu, il s'éteint. Donc, il y a des gens, à force de pas la nourrir, elle finit par se... Mais on la perd pas quand on perd son portefeuille. Ou alors, il y a des jeunes qui me disent, ah, ça c'est dans l'affectivité. Il dit, ah, le mois dernier, j'avais la foi. J'ai eu l'autre jour un jeune qui m'a dit ça. Le mois dernier, j'avais la foi, mais là, en ce moment, je l'ai plus. Non, en fait, elle vit un moment difficile, donc affectivement, elle n'est pas bien, mais ça n'a rien à voir avec la foi. D'accord ? Alors, qu'est-ce que la foi ? C'est quoi la foi ? Ah, attendez. En tout cas, la foi, ce n'est pas tenir dur comme fer des affirmations qu'on comprendra jamais ou qu'on pourra jamais vérifier. C'est pas ça la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi ? En fait, il y a deux dimensions à la foi sur lesquelles je veux insister. La première, c'est que la foi, c'est d'abord, et là je vous cite le pape, une adhésion personnelle de l'homme à Dieu. Et en même temps, et inséparablement, l'assentiment libre à toute la vérité que Dieu révèle de lui-même. Donc la foi est une rencontre non pas avec une idée ou avec un projet de vie, mais avec une personne vivante qui transforme en profondeur, en nous révélant notre propre identité. Alors là, je vais vous citer un passage que je voudrais que vous appreniez par cœur et que je vais commenter. C'est dans l'encyclique du pape Benoît XVI sur l'amour de Dieu. Dieu est amour. Il dit ceci. Nous avons cru à l'amour de Dieu. C'est ainsi que le chrétien peut exprimer le choix fondamental de sa vie. À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement et avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. Alors je commente. Donc la foi, être chrétien, dit le pape, c'est une rencontre. Alors il dit avec un événement et avec une personne. De quel événement il s'agit ? Hein ? C'est ce qu'on appelle l'événement pascal, c'est-à-dire, là je vous fais du caté, hein, c'est-à-dire la venue dans le monde d'incarnation, la vie parmi nous du Seigneur, sa mort, sa passion, sa mort, sa résurrection, l'ascension, l'obitio de l'ascension, et la Pentecôte. C'est l'événement de Pâques qui se déroule sur la vie du Christ. Et on rencontre cet événement. Et même on y entre. Vous savez à quel moment ? Par les sacrements. Par le baptême, la confirmation. Les sacrements de l'initiation chrétienne sont lesquels ? Il y en a trois. Et dans l'ordre, c'est baptême, confirmation et Eucharistie. C'est-à-dire qu'un chrétien normal, il vit du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie. C'est pour ça qu'on va à la messe tous les dimanches. Et c'est pas parce que, Monseigneur, est-ce qu'on est obligé d'y aller ? Bah, j'en sais rien si on est obligé, mais c'est naturel. Quand on est chrétien, on y va. Je ne sais pas si on est obligé. Mais comment vous voulez faire autrement, vous ? Même s'il faut faire 20 km ou 30. Hein. On va bien au supermarché. Non, mais attendez. On vit de l'événement pascal. On en vit. Ça va ? Ben, c'est comme la confirmation. S'il y en a parmi vous, parce que ça arrive aujourd'hui que des adultes ne sont pas confirmés, ben, ce n'est pas compliqué, hein. Vous vous préparez, vous faites une demande, vous vous préparez et on vous confirme. Voilà, c'est assez simple. Mais on vit de la vie de l'événement pascal. Donc c'est une rencontre avec un événement qui est au fond l'événement, la mort et résurrection du Seigneur et une personne qui est la personne de Jésus. Donc c'est pas une idée, c'est pas l'adhésion même à une morale, ce n'est même pas une grande générosité. Alors j'espère que vous êtes généreux. J'espère aussi qu'il y a une éthique, c'est-à-dire une manière de vivre à la lumière de l'Évangile. C'est évident. Mais la foi, c'est donc une rencontre et une relation dans laquelle on entre et qui modifie l'existence. Parce que tant que c'est une adhésion à des idées, vous prenez les idées qui vous plaisent. Tant que c'est une morale, c'est compliqué et ça ne change pas votre vie. Tandis que la relation avec quelqu'un modifie l'existence. Non ? Vous savez, c'est comme quand on a des vrais amis, si on a une vraie amitié, ça modifie notre existence. On est obligé de tenir compte de l'autre. D'accord ? Et donc, la première question, la première remarque que je me permets de vous faire, c'est où en êtes-vous de votre relation personnelle et de la rencontre personnelle avec la personne de Jésus ? Et pour ça, c'est pas la peine, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour la Vierge Marie, c'est pas une apparition, ça peut l'être, bien entendu, mais c'est quelque chose de plus simple. Mais c'est la rencontre avec quelqu'un de vivant. Et quand on dit que Jésus est ressuscité, c'est pas de l'archéologie. C'est-à-dire quand on fait Pâques, c'est pas la mémoire d'un événement passé. C'est que nous rentrons et nous rencontrons le Jésus ressuscité aujourd'hui, maintenant, à chaque Eucharistie. Alors l'autre élément sur la foi, parce que sinon je vais être trop long, c'est qu'il y a un contenu objectif de la foi. Donc il y a une rencontre avec une personne, d'accord ? C'est-à-dire que Dieu nous parle, et il nous a parlé. Et quand on lit l'Écriture, quand on lit les Évangiles, quand on lit l'Ancien Testament, en réalité, alors écoutez bien, quand on lit, on regarde. Quand on lit, on regarde la personne du Christ. C'est-à-dire, l'Écriture nous dévoile qui est Dieu. Et Jésus ne se réduit pas au sentiment que vous en avez. Et Jésus ne se réduit pas à l'idée qu'on en a. Sinon, vous êtes comme ces gens qui font des partages d'évangiles. J'ai souvent vu ça, avec tout le respect que je leur dois. Alors, l'autre jour, c'est pareil, on partageait sur l'évangile, et puis il y a un gars qui dit « Ah, mais moi, je suis pas tout à fait d'accord là, avec ce que Jésus a dit, là, c'est un truc culturel. » Enfin, non, enfin, la question n'est pas de savoir si vous êtes d'accord ou pas d'accord. De savoir, c'est de savoir si s'il l'a dit ou l'a pas dit. C'est l'objectivité d'un contenu de la foi. Et cette objectivité du contenu de qui est Jésus, qui est Dieu qui se révèle, a été résumé dans ce qu'on appelle le credo. Le credo que nous confessons à chaque dimanche, ce n'est pas une invention de théologien. C'est la contemplation de l'Église qui a contemplé Jésus dans l'Écriture et qui l'a formalisé. Et le credo peut changer notre existence. Ce n'est pas simplement une formule qu'on récite. C'est l'affirmation du mystère de Dieu. Alors, vous savez, c'est pour ça que, dans l'ouverture de l'année de la foi, la lettre que le pape a écrite, qui s'appelle Porta Fidei, il dit ceci, « Ce n'est pas par hasard que dans les premiers siècles, les chrétiens étaient tenus d'apprendre de mémoire le credo. Et ceci leur servait de prière quotidienne pour ne pas oublier l'engagement pris au baptême. » Nous, nous récitons tous les jours, à peu près, je pense, le Notre Père, même plusieurs fois par jour. Nos premiers frères dans la foi, eux, ils récitaient le credo pour ne pas oublier quel était le contenu du baptême. Et nous devons, comme nous laisser, transformer par le credo. Et ce qui est proposé pendant l'année de la foi, c'est ces deux choses. C'est une nouvelle rencontre personnelle avec le Christ, donc une conversion nouvelle, et une adhésion objective et plus cohérente au contenu de ce que croit l'Église et qu'elle a contemplé dans l'Écriture et qu'elle a défini dans le credo. Ça va ? C'est ça la foi. Retenez une relation, une rencontre et une relation qui modifie l'existence. Et dans cette relation, on découvre notre identité profonde. Le Concile dit que Dieu s'est fait tellement proche, dans s'incarnant, l'homme se comprend qui il est, comprend son mystère dans le Verbe incarné. Et vous voyez, l'un des drames, pour faire raccourci, de notre époque, à mon avis, c'est que nous avons, au moins en Europe, parfois écarté Dieu. En tout cas, nous vivons, et même nous comme chrétiens parfois, on est un peu imbibés de cette culture, nous vivons comme si Dieu n'existait pas. Et un monde qui ne sait plus qui est Dieu, ne sait plus qui est l'homme. Et aujourd'hui, le grand drame, c'est tous nos débats actuels, c'est ça, c'est qu'on ne sait plus ce qu'est l'être humain, la personne humaine, parce que dans la foi, dans la relation à la personne du Christ, à Jésus qui nous révèle qui est son Père, nous découvrons aussi la grandeur et la dignité absolue de chaque être humain. Vous voyez, donc il y a un enjeu quand même autour de cette histoire de l'année de la foi assez important. D'accord ? C'est-à-dire la foi, cette relation au Christ et puis ce contenu objectif de la foi rejoint les questions les plus fondamentales de l'être humain. Et vous savez quelles sont les questions auxquelles chaque être humain ne peut pas échapper, qui sont dans le cœur, dans chacun de nos cœurs ici, et qui sont dans le cœur de chaque être humain, de tout ce qui nous entoure, c'est, je vous les résume, hein, comme ça vous réfléchirez après, c'est un, est-ce qu'on m'aime ? C'est-à-dire, on ne peut pas vivre sans être aimé. La vraie question qui nous traverse, c'est est-ce que je suis aimable ? Et d'ailleurs, toutes nos perversions, nos jalousies, nos colères, nos méchancetés, nos disputes dans nos familles, nos machins et nos trucs qui nous empestent bien la vie, c'est souvent simplement parce qu'on a peur de ne pas être aimé. Et l'être humain ne peut pas... Dieu est amour. Jésus nous révèle l'amour même de Dieu. Autre question auquel on ne peut pas échapper, c'est la vérité. Et la vérité n'est pas la sincérité. Aujourd'hui, on est sincère. Enfin, on essaye. Mais vous savez, vous pouvez être sincère et vous tromper et être dans l'erreur totale. Et c'est pas ça. La vérité, c'est d'abord tendre nous-mêmes à ne pas mentir. Par exemple, tout ce qui est superficiel, même la superficialité chrétienne, parce que vous savez, il y a de la mondanité païenne, mais il y a de la mondanité catho aussi. Hein. Je peux vous affirmer. C'est quand on vit dans le paraître, c'est des adolescents, problème de notre société, des ados. Mais la vérité, nous sommes faits pour la vérité. Et nous la cherchons, et nous voulons l'aimer. Et Benoît XVI dira même, on veut se laisser aimer par elle. Et pour nous, la vérité n'est pas une doctrine, c'est une personne. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus ne dit pas, je vous montre le chemin, il ne dit pas, je vous dis la vérité, et il ne dit pas, je vous montre où est le chemin de la vie. Il dit, je suis ma personne et le chemin. Je suis ma personne et la vérité sur Dieu et sur l'homme. C'est-à-dire que nous découvrons la vérité dans la relation avec lui. Seulement, voilà, je ne vais pas m'étendre, mais autre chose qui est tout cœur humain, c'est-à-dire le mensonge ne peut jamais combler une existence. Jamais. Et la foi rejoint cela en nous. L'autre chose, c'est le pardon. Excusez-moi, l'autre jour, j'ai eu un petit problème de jambe. Alors, j'ai l'infirmière qui vient faire les picouses et tout ça. Elle est pas chrétienne, vaguement, même pas. Puis alors, je vois bien monsieur, mon père, enfin, monsieur l'évêque, enfin, voilà. Et puis, j'essaye d'être gentil avec elle, on sympathise, et je vois bien que de jour en jour, elle voulait rester plus longtemps. Puis un jour, elle me dit, là, il y a deux jours, elle me dit, mais ah, je viens vous voir tous les soirs comme à confesse, hein. Et puis je j'écoute et puis elle me dit mais la confesse ça existe plus. Et alors je dis mais madame c'est pas vrai. Comment vous allez faire vous? Elle m'a regardé, s'attendait pas du tout à ça. Vous savez les gens se disputent dans les familles, les machins, on se fait du mal. Comment vous allez vous en sortir sans le pardon? Comment vous allez faire sans pardonner aux autres, sans être pardonné vous-même? Comment vous faites? Elle me dit bah ouais vous avez raison. Ben voilà, donc la confession, c'est possible. Et puis hier soir ou avant-hier soir, quand je lui ai dit au revoir, bon Noël, elle me dit, vous allez faire la messe à Noël? Je dis, bien sûr, je vais faire la messe. Dans la cathédrale, là? Je dis, oui, d'ailleurs, je vous invite. Elle me dit, mais je pourrais venir? Je dis, mais bien sûr, vous pourrez venir. Bon. Le pardon. Aucun, nous sommes tous des pauvres gens, donc nous ne pouvons pas vivre sans le pardon. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les... Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les... Bon, autrement dit, pour rencontrer le Christ, il faut être ou malade, ou pécheur, ou les deux. Et s'il y en a qui pensent qu'ils ne le sont pas, eh bien, ils se trompent, c'est tout. c'est tout. Et puis une dernière, le cœur de l'homme est insatisfait. C'est-à-dire qu'il y a dans le cœur de l'homme une aspiration à plus, à plus grand. Chez tous les hommes. Même chez nous. Même si on vit quelque chose de très beau, très fort. Même moi, je vis des choses très belles dans ma vie, mais je trouve que c'est trop peu. Même quand c'est très beau. Non ? Pourquoi ? Parce qu'on est fait pour... Il y a une nostalgie de l'éternité dans le cœur de l'homme. Et la foi vient atteindre cela dans la rencontre avec la personne du Christ. C'est ça, la foi. Puis après, on a toute sa vie pour grandir. À travers joie, peine. Donc, entrez, grandissons dans la foi. Ça va ? Alors maintenant, je vais vous parler de la Vierge Marie, ça ne vous dérange pas ? Je suis perdu dans mes papiers, c'est pas grave. Si, j'aurais pu vous en dire plus, mais j'essaye de tenir le temps. Maintenant, c'est comment vivre la foi, ce que j'essaie de vous dire à l'école de la Vierge Marie. Ça va ? D'abord, j'ai envie de vous rappeler des choses que vous savez déjà, mais qui est la Vierge Marie ? Ouais, mais attendez, on va commencer dans l'ordre. D'abord, la Vierge Marie, c'est une de vos sœurs. C'est une de nos sœurs. C'est une d'entre nous. Quand l'ange est venu la voir, c'était une petite jeune fille, intelligente, belle. Moi, je pense que si j'avais connu la Vierge Marie, je serais tombé amoureuse d'elle. Ah, c'est sûr, hein. Bon. Mais ça veut dire... Et puis elle était intelligente en plus, d'accord ? Donc c'est une jeune fille magnifique. Une de nos... Il faut comprendre, c'est une de nos sœurs. D'accord ? Et elle a reçu, c'est la fête que nous fêtons aujourd'hui, elle a reçu une grâce de Dieu unique, ce qu'on appelle l'Immaculée Conception, qui la rend capable d'être la mère de Dieu. Mais elle est d'abord notre sœur. D'accord ? Ça va ? Deuxièmement, donc elle va dire oui au don de Dieu. Donc ça veut dire qu'elle va se livrer. Le oui, c'est pas oui. C'est comme dit le pape à propos de l'évangélisation. Il dit que l'évangélisation, c'est pas seulement la proclamation de la foi. C'est pas un discours qu'on proclame. Il dit c'est la confession. Ça suppose qu'on engage sa personne. Confesser, c'est proclamer et être prêt à souffrir et à mourir pour ce qu'on dit. C'est un acte aussi. C'est pour ça qu'il y a les martyrs. Mon mari va dire oui, et c'est un oui où elle se livre entièrement. Et elle devient la mère de Dieu. Donc, elle est notre sœur, et elle est la mère de Jésus. Jésus étant Dieu, elle est la mère du Fils éternel. Elle est mère de Dieu. C'est incroyable. Non ? Une créature a enfanté son créateur. Mais c'est notre sœur. Ça va ? Et en faisant ça, ou en acceptant cette vocation, en s'y livrant, elle va suivre Jésus, son fils, jusqu'au bout. Et elle va s'associer à lui jusqu'au bout. Et elle devient ainsi, par conséquence, notre mère. Mère de l'Église, mère des croyants. Elle nous engendre, elle nous fait naître à la vie dans le Fils. Voilà. Donc, notre sœur, notre mère de Dieu et... Alors, il y aura bien d'autres choses, mais déjà avec ça, si vous vous rappelez ça, c'est déjà pas mal. Et elle devient notre modèle, parce qu'elle est notre sœur. C'est-à-dire que la façon dont elle va se livrer à Dieu, la façon dont elle va le suivre jusqu'au bout, la façon dont elle va l'aimer... dont elle répond à sa vocation unique dans l'histoire, ça devient aussi un modèle imitable, puisque c'est une d'entre nous. Ça va ? Bon. Alors, à l'école de Marie, dans sa manière de vivre la foi, je voudrais, relever quelques points sur lesquels je voudrais m'étendre un tout petit peu. J'ai pensé à 3 points. Le premier, c'est elle est le modèle fondamental de l'écoute. Vous savez, il y a le fameux passage dans Luc quand on dit « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui Bon, et en fait, c'est cette personne qui, dans la foule, se lève et qui dit à Jésus, hein, heureuse cette femme, celle qui t'a porté et a allaité. Et Jésus répondra, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Vous savez, c'est pas un rejet de sa mère, hein. C'est pas, parce qu'à un moment, quand j'étais plus jeune, quand je disais ça, je trouve qu'il est un peu vache quand même. Je le trouvais pas très tendre avec la Vierge Marie. Mais j'ai rien compris. Parce que, et ce que pense la tradition de l'Église, c'est que ce propos, heureux celle qui écoute la parole de Dieu et qui la met en œuvre, c'est d'abord Marie. Marie est mère de Dieu parce qu'elle est la première à avoir écouté et gardé la parole de Dieu. C'est parce qu'elle était toute écoute, toute disponibilité à ce que Dieu lui demandait qu'elle devient capable d'être aussi la mère physique du Christ. Et donc, nous avons quelque chose à apprendre. La foi suppose, comment dire, la capacité d'écouter ce que Dieu dit. Et c'est assez compliqué parce que écouter quelqu'un, c'est disposé à changer d'avis. C'est-à-dire que ce que Dieu nous dit ne se résume pas à ce que nous pensons. C'est que Dieu peut nous dire des choses dans la parole, dans les rencontres diverses, différentes de ce que nous pensons. Et que nous sommes donc disposés, écoutez, c'est disposés à se laisser modifier par la parole que l'on entend. Et vous savez très bien que c'est ce qui est sans doute plus difficile aujourd'hui. Hein. C'est comme quand on dit que l'orateur était très bien, c'est que quand il pense comme moi, c'est un gars bien. Mais il peut ne pas penser comme moi, et pourtant il a raison. Donc cette capacité à écouter. Marie, celle qui a écouté. Et Benoît XVI, dans un commentaire, il applique à la Vierge Marie, vous savez, la parabole du semeur. C'est la fameuse parabole où on dit que le semeur est sorti pour semer et il jette le grain. Et il y a plusieurs situations. Il y a la première où le grain tombe sur le bord du chemin et les oiseaux du ciel viennent et ils enlèvent tout. D'accord ? Il dit que c'est ceux qui sont des girouettes. Ça, c'est ma traduction à moi. Hein. Mais c'est tout à fait ça. C'est des gens, vous savez, une a des chances, une autre. Ce que vous avez entendu à la messe ce matin et qui vous a peut-être plu, vous vous en souvenez ou pas ? Bah, je sais pas, mais le nombre de choses que l'on entend, et hop, ça tombe, mais on est tellement dispersé, la télé, la radio, le téléphone, le machin, les conversations inutiles, les agitations intérieures de toutes sortes, et hop, plus rien. Bon, et puis il y a l'autre cas où ça tombe bien dans le bon sol, mais il y a les ronces et les... Vous vous souvenez ? Et on dit que c'est l'attrait des richesses, l'argent, 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 pas besoin d'en avoir pour y être attaché, c'est ça qui est incroyable, et puis les soucis de la vie. Tu t'inquiètes et tu t'inquiètes pour bien des choses. Une seule est suffisante. L'unique est nécessaire. Voyez ? Et puis, il y a celles qui tombent sur la seule sol, mais ils n'ont pas de racines. C'est des gens d'un instant. C'est-à-dire que on oublie, ça ne dure pas. La première épreuve, hop, plus rien. Et puis, il y a le cas où ça tombe dans la bonne terre et ça porte du fruit. Et il dit, Marie est celle-là. Où la parole est tombée dans la bonne terre. Donc, Marie est le modèle de l'écoute. Alors, elle méditait et gardait tous ces événements dans son cœur. Alors, ça prend une actualité très forte parce que aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est extrêmement superficiel. Il y a du bruit tout le temps, il y a une difficulté à l'intériorité et au silence. Moi, j'ai proposé à mon diocèse, pour tous les laïcs engagés, là, et les prêtres, mais aussi les laïcs, qu'on fasse 3 jours en silence. Alors, on fait ça depuis 3 ans. La première fois, je me suis aperçu, j'étais très étonné, des gens très donnés, très généreux, très compétents, tout ça, très bien. Ne s'étaient jamais mis en silence, même une journée. Et pourtant, pour écouter, il faut entrer dans une espèce de silence. Il ne faut pas avoir peur de ce silence, même intérieur. Je sais bien que quand on fait silence profondément, on est confronté à sa propre angoisse. Mais justement, la parole de Dieu peut venir la traverser, comme la guérir. Et Marie doit nous apprendre cela pour entrer dans cette relation profonde avec le Christ. Souvenez-vous, l'enfant prodigue de la parabole, le fils prodigue, il commence à se convertir. Vous savez à quel moment ? Il entra en lui-même. Ça suffit. Moi, mon boulot, c'est de faire entrer les gens en eux-mêmes. Et de les mettre en conversation avec le Seigneur. Après, c'est gagné. Et donc, Marie peut être pour nous ce modèle, parce qu'elle a vécu cela toute sa vie. Et donc, je vous y invite. Ça va ? Et vous savez, ça va avec le fait de réfléchir. Peu de gens réfléchissent, hein. Les gens ont des idées, mais ils réfléchissent assez peu. Mais la vraie réflexion du cœur dans laquelle nous entrons devant lui. Marie, modèle de l'écoute. Et ça suppose une certaine durée. En fait, plus fondamentalement, ça suppose l'humilité. Les orgueilleux n'écoutent pas. Et Marie écoute parce que c'est aussi lié à « il s'est penché sur son humble servante ». C'est aussi pour ça qu'elle peut se réjouir sans complexe de l'œuvre de Dieu. Elle dit voilà, Dieu a fait pour pas des merveilles. Mais c'est parce qu'elle est humble qu'elle peut dire ça. D'accord. Alors l'autre modèle, ça va, vous me suivez toujours ? Autre modèle de Marie, c'est elle est modèle du oui. Oui. Elle a dit oui. Comment vous dire cela ? J'avais envie de vous le lire parce qu'on le lit ça au moment, dans le bréviaire au moment du temps de l'Avent. Il y a un magnifique texte de Saint Bernard où Saint Bernard décrit les patriarches, Abraham, tout ça, tous les patriarches de la Bible qui supplient la Vierge Marie de dire oui. Je vais vous lire un tout petit passage si je le retrouve. Je l'avais pris hier. Attendez, je crois que c'est ça. À imaginer, hein, c'est... Elle dit « Réponds, ô douce Vierge, Adam implore ton oui, exilé qu'il est au paradis, du paradis avec sa malheureuse descendance. Il implore Abraham, il implore David, il réclame tous instamment les autres patriarches, les ancêtres qui habitent eux aussi les pays de l'ombre de la mort. Cette réponse, le monde entier l'attend, prosterné à tes genoux. Ce n'est pas sans raison puisque... D'une parole dépend le soulagement des malheureux, le rachat des captifs, la délivrance des condamnés, le salut de tous les fils d'Adam, de la race entière. Ne tarde plus, Vierge Marie. Vite, réponds à l'ange. Et aussitôt, par l'ange, réponds au Seigneur. Par une parole, accueille la parole, prononce la tienne et conçois la parole de Dieu. Profère une parole passagère et étreins la parole éternelle. Et Marie, elle peut nous apprendre à dire oui, cette difficulté que nous avons à dire oui. Vous savez, dans l'Évangile, il est dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix. En fait, c'est pas dans ce sens-là, je crois. C'est qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Alors, en général, on est plutôt généreux. Alors, on se dit, je vais renoncer. Alors, si la vie chrétienne, c'est que renoncer, ben bonjour les dégâts. Vous n'y arriverez pas d'abord, parce que ça va vous conduire à l'aigreur. Ou alors, si vous réussissez, ça vous conduit à l'orgueil, ce qui est pire. Et alors, certains, ils envisagent suivre le Christ et renoncer. Ils ont entendu un petit bout du texte, simplement. Alors, après ça, c'est... prends ta croix. Alors, renoncer à soi-même, porter sa croix. Alors, en général, dit, oulala, si je suis le Christ, je vais souffrir. D'ailleurs, on m'a dit... va souffrir plus. Mais il dit pas ça, le Seigneur. Il dit de porter la croix. On l'a déjà, elle est déjà là. C'est de la porter avec lui. Mais si c'est que porter la croix, eh ben, elle est lent, hein. C'est gai. Vous n'y arriverez pas, de toute façon. Alors, c'est pas compliqué. Mais c'est pour le suivre. Parce qu'on oublie que renoncer, porter, pour le suivre, pour se mettre en chemin avec lui. Mais on oublie en général le premier mot, qui est le plus important, qui est celui qui veut me suivre. Celui qui veut. Donc il a pris une décision. Qui a décidé de suivre Jésus. Qui a dit oui. Un oui modeste, mais il a dit c'est ça que je veux. Et nous on confond vouloir et dire oui et réussir. Moi je ne vous demande pas de réussir. Je vous demande d'essayer. Je vous demande de dire oui, c'est très différent. On dit un oui et Marie a dit ce oui. Vous voyez ? Et ça, personne ne peut le dire. À un moment, on est confronté. Alors, tu veux ou tu veux pas? Tu veux quoi, au fond? Et Marie peut être celle qui nous conduit à dire oui. Et ce oui, vous avez bien compris, c'est un abandon, en réalité. C'est un acte de confiance, je vais y revenir. Et Marie, dans la foi, il y a une réponse libre à la rencontre de la personne du Christ et au contenu de la foi. Et Marie a dit oui. Et Marie est celle qui, à côté de nous, en elle, nous pouvons apprendre à dire oui. Ce vrai oui, oui Seigneur, c'est ça que je veux. Oui Seigneur, fais en moi ce que je ne peux pas faire par moi-même. Mais je veux bien que tu le fasses. C'est l'adhésion de la liberté. Vous comprenez ? Un dernier point, ça va ? Ça va, monsieur le curé ? Bon. En conséquence de ce que je viens de dire, l'écoute, le oui, en fait, Marie est le modèle de la confiance. La question de la confiance est essentielle. Vous savez, on dit à la fin de l'évangile de l'Annonciation, bon Marie, que cela se passe selon ta parole, et il dit après ça, on dit l'ange la quitta. C'est-à-dire qu'elle s'est livrée, elle a dit oui, mais il la quitte, elle est toute seule. Elle va devoir vivre dans la confiance tout le reste de sa vie, en croyant que rien n'est impossible à Dieu, et ça va la conduire jusque la confiance traverse toute la vie de Marie jusqu'au mystère de la croix, jusqu'à la résurrection, jusqu'à la véritable fécondité totale, toute une vie. Vous méditerez là-dessus. C'est vrai pour nous, hein. Et la question de la confiance est tellement importante, c'est que c'est même, à mon avis, le cœur de la question de la sainteté. C'est le cœur de la foi. Le père Liberman, qui est le fondateur de, enfin l'un des fondateurs ou le refondateur des Spiritains, des Saint-Esprit. Dans ses écrits, à un moment, il dit ceci qui m'a beaucoup éclairé il y a quelques années. Il dit le problème des chrétiens, c'est le manque de confiance. Le manque de confiance qui les paralyse, qui les empêche d'avancer. Beaucoup de chrétiens, je vous le cite, viennent se plaindre de leur manque de générosité ou de leur manque de volonté ou de manquer de générosité. En réalité, ils manquent surtout de confiance. Ils ne manquent pas de générosité, ils manquent de confiance. Car ils s'appuient beaucoup sur eux et peu sur Dieu. Vous savez, il y a un passage dans les écrits de Sœur Faustine, la bienheureuse, elle est sainte maintenant, non ? Sainte Faustine. Dans son petit journal, qui est en fait un gros bouquin comme ça. À un moment, elle raconte dans ses écrits là, qu'elle avait des visions et tout ça. Alors elle voit, à un moment dans un de ses rêves, elle voit une religieuse, une carmélite. Et elle la reconnaît dans son rêve et elle l'identifie comme étant Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. Alors elle lui dit, mais tu es Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors Sainte Thérèse, elle dit, oui, c'est moi. Elle dit, écoute, il y a une conversation entre elles deux. Alors elle demande à Sainte Thérèse, est-ce que je serai sainte ? Alors Sainte Thérèse lui dit, bah oui, tu seras sainte. Oui, mais attends, est-ce que je serai sainte dans l'expression, c'est sur les autels, canonisé. Et alors l'autre lui répond, bien sûr que tu seras sainte canonisée. Mais aujourd'hui, il te manque une seule chose, la confiance. Vous savez, le jour où j'ai entendu ça, je me suis dit, j'ai eu peur. Parce que j'ai compris que la sainteté est possible. C'est terrible. Un acte de confiance, confiance que Dieu peut même faire avec le pauvre bonhomme que je suis. Condition que je lui ai livrée, il y a un oui à dire, voyez. Et Marie, je pense, est celle qui a fondamentalement vécu cela. Et elle peut devenir pour nous, enfin elle est pour nous non seulement un modèle, mais celle qui dans la communion des saints peut nous aider à grandir. Oui, la foi c'est ça, donc la foi est un chemin. Ce n'est pas une conviction, c'est une livraison et une relation sur toute une existence jusqu'à l'éternité. Ça vous va? Ah, vous y croyez? Ouais, ouais. Ouais. Est-ce que vous êtes disposé à ce que cela modifie totalement votre existence et vous conduise à être dérangé, hein, à changer d'avis aussi, à vous laisser éclairer sur des points de conversion que vous ne soupçonnez même pas, à vous montrer que peut-être à tel moment, ben vous auriez dû faire autrement. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, et je vais m'arrêter là, parce que je respecte le temps, demandons à la Vierge Marie qu'elle nous accorde de grandir dans la foi. Merci.
En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi. J'ai foi.